foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020. Alors bienvenue à cette table ronde qui deux fois par mois accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes les informations que l'on reçoit quotidiennement et qui parfois, admettons-le, nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours. Alors laissez-moi vous les présenter. D'abord en studio, avec moi, Suzanne Loisel, religieuse auxiliatrice et militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour Suzanne.
Bonjour François.
La première fois en studio cette saison?
Oh, depuis février dernier.
Bon, ben alors...
Je vais presque tourner une année en dehors.
Alors, on a eu un très grand laps de temps, là, sans voir tout le monde, hein? Une grande période d'arrêt, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Alors, imaginons qu'on va encore reparler de la COVID aujourd'hui, très bientôt. Ceci dit, à l'extérieur du studio, en télétravail, Marie-Claude Lalonde, la directrice nationale de la branche canadienne de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour.
Alors, vous aussi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu en studio là, pour l'émission.
Oh. Ah ben, je pense que c'est pire que Suzanne, parce que je me souviens même pas de la dernière fois.
Le délai est tellement long qu'on commence à oublier, hein, à perdre la mémoire dans tout ça. Alors, et le troisième aussi, mais lui, il est au travail, mais il est à l'extérieur. Alors, c'est Frédéric Barriot, le responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour, Frédéric.
Bonjour, François.
Alors, vous aussi, ça fait très longtemps qu'on vous a vu en studio.
Oui, ben j'ai vu la photo qui circule sur le Facebook donc de Radio VM et donc Marie-Claude et moi on est en studio en même temps donc ça doit être cette fois-là.
Mais voilà, écoutez, alors c'est un grand plaisir en tout cas de tous vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous, que vous soyez en présence ou en absence ou à l'extérieur. Alors, mais ceci dit, aujourd'hui il sera question du plan vert de la CAQ, de la progression importante de la COVID-19 au Canada et au Québec. Mais d'abord, je vous propose qu'on se rende de nouveau, encore une fois, aux États-Unis, prendre des nouvelles de la transition politique qui ne se déroule pas, mais vraiment pas, de manière traditionnelle. Alors, rappelons seulement que l'élection présidentielle américaine de 2020 a eu lieu le mardi 3 novembre, il y a 22 jours. Alors, ce n'est que le samedi 7 novembre 2020, que les principaux médias américains ont annoncé la victoire du démocrate Joe Biden, 78 ans, aujourd'hui, qui deviendra en janvier 2021 le 46e président des États-Unis. Lors de notre dernière table ronde, à laquelle aucune d'entre vous n'avait participé, mais c'était le mercredi 11 novembre, le président Trump n'avait toujours pas concédé la victoire. Alors, on était déjà à 8 jours des élections présidentielles. Lundi dernier, donc il y a 2 jours, sans dire qu'il avait perdu l'élection et en répétant que le vote avait été entaché par de nombreuses irrégularités, de la fraude, ne cesse-t-il pas de répéter, le président sortant a quand même donné son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden. Et il l'a fait dans un gazouillis sur Twitter. Il a demandé à Emily Murphy, qui dirige la General Service Administration, donc un peu comme le secrétariat général du gouvernement, d'aller de l'avant avec le processus de transition. Un processus qui est généralement amical, mais qui, cette fois-ci, ne l'est pas du tout. Alors, l'administratrice Emily Murphy a néanmoins remis 6,3 millions de dollars à la disposition du président élu. Le président élu a déjà créé une équipe pour faire face à la pandémie, par exemple, mais l'équipe du président sortant ne travaille pas avec l'équipe démocrate sur la COVID-19. D'autant plus que les États-Unis sont fortement touchés avec plus de 12 millions de cas et plus de 259 000 décès depuis le début de la première vague. Une transition donc à reculons. N'empêche que le président Biden a déjà annoncé ses couleurs, tant à l'interne qu'à l'externe. Alors moi, je vous propose qu'on fasse un premier tour avec nos invités pour discuter d'abord de la situation intérieure aux États-Unis. Le président élu a déjà dit qu'il allait accorder davantage d'importance que l'administration précédente à l'environnement et au climat. Il veut constituer une équipe formée de plus de femmes et de membres des minorités ethniques. Beaucoup de défis, donc, pour le nouveau président des États-Unis. Frédéric, je m'adresse à vous en premier. C'est visiblement un changement de cap majeur là, que devra effectuer le nouveau président des États-Unis.
Oh, tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça s'impose d'emblée à l'évidence. Là. Bon, juste la question. Il s'agit de voir de toute façon le vote qui a été exprimé. Et j'ajouterais aussi toute la résistance dans certains États-clés à majorité donc afro-américaine. Le vote urbain des personnes afro-américaines et par ailleurs les délais qui ont marqué finalement le dépouillement du vote et tout à fait au diapason du fait que la plupart de ces gens-là ont eu recours au vote postal, précisément parce que c'était des personnes fragilisées par la COVID en des situations sanitaires exceptionnelles. Donc évidemment, tout ça s'ajoute à des années donc d'avoir joué la carte vraiment xénophobe à fond la caisse. Donc oui, je pense que un changement d'air va être nécessaire. Évidemment que l'élection de sa codicière Kamala Harris, évidemment, va amener, là, souhaitons-le, donc un changement de ton. Bon, je suis sûr quand même qui, tout en se réjouissant vraiment donc de la sortie du pouvoir donc de M. Trump, évidemment, la marche va quand même être assez haute, là. Donc, on n'est pas quand même... Et disons qu'il y avait un autre ticket démocrate qui aurait pu vraiment aller encore plus loin, mais il n'empêche. Il n'empêche que vraiment, c'est significatif, c'est vraiment symbolique. Donc, oui, tout à fait. Donc, sur la question, bien entendu, des relations raciales, mais bon, la question vraiment environnementale, on en reparlera dans le deuxième tour, oui. Mais donc, il y a vraiment des horreurs là, qui sont en train d'être passées en douce là, dans les derniers jours où M. Trump se cramponne à la Maison-Blanche. Donc oui, bien sûr, de vastes chantiers et surtout vraiment une guérison nationale absolument nécessaire.
Alors, merci de parler justement de cette guérison-là. Je vais m'adresser à Marie-Claude. On doit effectuer des changements, en tout cas une transition qui n'est pas si pacifique que ça, qui n'est pas si harmonieuse que ça, mais on doit effectuer des changements dans un pays qui est fortement divisé, dans un pays où près de la moitié de la population a voté pour le président Trump et qui ne croit pas aux résultats des élections. Donc, un pays fortement divisé et on a l'impression, en tout cas, que M. Biden aura fort à faire, en tout cas, pour convaincre d'abord et avant tout le peuple américain qu'il est la bonne personne au pouvoir.
Oui, puis dans le fond, je pense que c'est aussi une tactique de M. Trump à ce stade-ci, hein, de ne pas avoir reconnu la victoire de Biden. Ce que ça veut dire, c'est que ça laisse en suspens la fameuse question des élections truquées, entachées de fraude ou même volées. C'est des termes qu'on a entendus. Et donc, de cette manière-là, il continue à dire aux gens « Biden n'est pas légitime ». Et donc, comme vous l'avez mentionné, François, 50% de la population ont quand même voté pour Trump, et donc ce 50% là sera enclin à croire qu'effectivement, il y a eu des irrégularités dans l'élection et qu'en plus, s'il n'y a pas reconnaissance officielle de Biden, eh bien, je pense qu'on on doit s'attendre à un pays fortement divisé. Par contre, à la différence de Trump, M. Biden est beaucoup plus rassembleur. Alors, peut-être qu'il arrivera quand même à unifier davantage le pays pour éviter qu'il y ait carrément toujours deux camps, parce qu'on l'a vu dès son discours. J'ai écouté avec attention à la télévision et vraiment, on voyait cette volonté d'unir, de réunir les gens. Alors, je pense quand même que c'est peut-être une chance que Biden ait cette attitude-là et qu'on va peut-être éviter la confrontation.
Alors, écoutez, plusieurs, en tout cas, avant l'élection du début du mois de novembre, et le président Trump ne les a jamais contredits, plusieurs craignaient que ce pays entre en guerre civile si jamais le résultat était trop chaud ou encore si les partisans estimaient qu'on leur avait volé la victoire par la fraude. On n'assiste pas à des débordements de violence, il me semble, actuellement. Et heureusement, sans doute, direz-vous, Suzanne Loisel. Comment interpréter ça, là? Est-ce qu'on s'en va vers des jours meilleurs, en tout cas, du côté des États-Unis?
Ben, bonne question, hein. J'ai pas de boule de cristal. C'est sûr que l'élection de Biden a ouvert un espace où on respire un peu mieux. Oui, le discours rassembleur de Biden est important. Il n'a pas répondu du tic au tac aux tweets de Trump qui se sont accumulés quand même de façon significative depuis les élections. Mais par ailleurs, cette période, je qualifierais un peu de dormance par rapport aux manifestations. Moi, je demeure quand même inquiète. Je veux dire, il reste quand même deux longs mois.
Oui, c'est très long, vous avez raison.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces deux longs mois avec quelqu'un qui est toujours au pouvoir, Trump, qui est un homme narcissique, on l'a dit sous tous les toits depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais surtout imprévisible, incohérent, qui fonctionne par instinct et non par raison. Alors, moi, je trouve que l'espace-temps de deux mois est extrêmement long avec quelqu'un à la tête d'un pays, comme je viens de le décrire. Et c'est extrêmement insécurisant, déstabilisant. Et la tactique de Trump, et pas seulement de lui, de sa garde rapprochée, de maintenir que le résultat de l'élection, c'est le résultat d'une fraude massive, qu'il y a eu collusion internationale, qu'il y a eu détournement des votes, kidnapping de boîtes. Il a tout dit. Il maintient que c'est une fraude. Il maintient, et ses avocats rapprochés, dont Giuliani, qui, à mon avis, est une terreur au niveau du discours public. Et ceci, évidemment, entretient sa base. Il faut reconnaître qu'il y a une base, je dirais, 50 % m'apparaît beaucoup exagéré, parce que dans le 50 % qui a voté pour Trump, il y a un certain nombre de républicains modérés là-dedans. Et des gens qui, par conviction, depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, votent républicains. Mais c'est pas tous des gens, des inconditionnels de Trump. Et d'ailleurs, depuis les résultats officiels, on sent qu'il y a des fissures
Il y a des défections, en tout cas.
Puis très claires et certaines très importantes. Et des républicains qui l'ont confronté publiquement et dans certains États, comme, je sais pas, la Pennsylvanie, pour donner un exemple, mais il y a la Géorgie, etc., où des républicains de l'intérieur de ces États disent non, M. Trump, il n'y a pas eu de fraude ici. Mais tout ça entretient, je dirais, un climat d'insécurité au plan interne. Et bien malin, et qui peut dire qu'est-ce qui va se passer dans les deux prochains mois. Mais ce qui m'inquiète, et peut-être qu'on en parlera plus dans le deuxième volet de l'entretien, mais c'est les décisions qu'il va prendre d'ici Et moi, je pense qu'il faut qu'on parle de ces décisions déjà qu'il a annoncées. Certaines, il s'est fait rabrouer, par exemple, comme, bon, des menaces d'attaque contre l'Iran. Moi, je pense qu'il y a ça dans ses cartons. Pour donner seulement cet exemple, on pourra y revenir plus à fond. Mais moi, j'appréhende que qu'ils disent, avant de partir, il va faire quelques coups d'éclat.
Ben alors, normalement, lorsqu'il y a la transition, en tout cas aux États-Unis, c'est une tradition, c'est une transition qui se fait assez en douceur.
Ouais,
vous avez un gouvernement, un président qui quitte, un président sortant, qui ne change pas énormément qui ne prend pas trop de décisions majeures là, au niveau national et au niveau international. Déjà, le président Trump a mis à pied certains de ses collaborateurs du côté des États-Unis. Mais ici, on voit bien, en tout cas, que du côté de la situation internationale, déjà, le président américain a pris des décisions inquiétantes. Et je vais m'adresser à Marie-Claude, parce que vous l'avez vu. Déjà, il vient d'annoncer le 17 novembre dernier que la présence militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan va être réduite drastiquement d'ici la fin de son mandat. Alors, j'imagine que pour une pacifiste comme vous, c'est une bonne nouvelle, sans doute, Marie-Claude Lalonde, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui sont inquiets devant... Comment on doit interpréter ça, là, ce nouveau geste-là là, qui vient d'être fait?
Bon, d'une part, du côté de M. Trump, je pense qu'il faut interpréter ce geste-là de manière à... J'en ai fait la promesse lors de mon élection. Vous voyez, je l'ai réalisé. Alors, j'ai même entendu des politologues dire qu'ils se préparaient pour la prochaine élection en faisant des choses comme ça. Il faut dire aussi qu'avec la COVID, déjà le nombre de soldats présents en Irak et en Afghanistan avait diminué. Par contre, lorsqu'on retire des troupes d'un pays, il faut le faire avec un plan. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque en ce moment. M. Trump nous dit, on va les sortir de là, les États-Unis ne devraient plus être impliqués, point. Non, il faut avoir un plan à soi, un plan avec les autorités en place pour être sûr que ça se passe bien. Et j'aimerais rappeler quelque chose de bien terre à terre, mais la nature a horreur du vide. Alors, s'il y a un vide créé par le départ des Américains, vous pouvez être sûr que quelqu'un va le combler, ce vide-là. Et ma crainte, c'est que ce soit comblé par l'État islamique, et Al-Qaïda et des groupes de cette mouvance-là. Ils sont très, très bons, sont très opportunistes pour ces choses-là. Et ce que j'aimerais peut-être mentionner, c'est que lorsque les Américains sont entrés en Irak et ont retiré Saddam Hussein du pouvoir, ils ont créé un vide. Et c'est ce vide-là qui a été une véritable catastrophe pour les Irakiens et qui a permis à différents groupes violents de se constituer, de se nourrir, de s'organiser. Alors moi, c'est ce que je pense qui va arriver si c'est fait trop rapidement ou si c'est mal fait. Il y aura un vide, un certain vide, tant en Irak qu'en Afghanistan. Puis en Afghanistan, vous le savez, vous lisez les nouvelles, c'est très, très, très fragile. Alors, on ne quitte pas en se disant, voilà, le pays est en paix. J'ai l'impression, du côté de M. Trump, qu'on quitte pour quitter, pour tout simplement pouvoir dire, j'ai respecté ma promesse.
Ben, écoutez, j'aimerais ça entendre Suzanne, là, vous partager cette réflexion-là sur l'ensemble des décisions là, qu'il est en train de prendre au niveau international, le président Trump.
Ben, faut situer ça dans un contexte où Trump a profondément fracturé les alliances internationales. Il a complètement, détricoté le système international. Alors, ces décisions sont prises dans ce contexte chaotique. Et ce qu'évoque mon amie Marie-Claude par rapport au retrait des troupes de l'Iran et de l'Afghanistan, elle a tout à fait raison de dire que ça se fait sans plan. De toute façon, c'est pas l'objectif aujourd'hui d'analyser l'intervention américaine en Irak, en Afghanistan. On l'a fait plusieurs fois dans le cadre de cette émission. Moi, je remets toujours en question ces interventions-là et l'occupation de ces pays. Mais ceci dit, devant cet état de fait, il n'y a aucune rationalité dans les décisions que prenne Trump. On l'a évoqué dans les premiers propos et évidemment, au plan international, ça a un impact majeur. On peut dire que, moi, je trouve que peut-être l'espace qui s'ouvre avec Biden, parce que je pense pas que c'est le salut hein, inconditionnel avec Biden, tout en reconnaissant que, oui, pour lui, la démocratie, c'est important, les droits humains, c'est important, le respect, je pense, de différentes entités nationales aussi, c'est important. Et on va passer dans un mode multilatéral. Et pour moi, ceci est important. Et tous les appareils internationaux desquels Trump ou les a ridiculisés, a brisé des contrats, s'est retiré d'alliances, qu'on pense à l'accord de Paris, qu'on pense à toutes ces critiques par rapport à l'ONU, etc. On sent actuellement dans des décisions, par exemple, déjà prises par Biden, pour lui, l'ONU, c'est important. Ça fait partie de ses premières nominations de consolider l'équipe au plan international. Donc, oui, est-ce que la décision de retirer les troupes et d'Irak et d'Afghanistan, on sait que ça va créer un chaos, mais on l'a déjà créé, le chaos. L'arrivée des États-Unis et l'occupation internationale de ces deux pays a créé le chaos dans ces deux pays. Donc, on gère un chaos depuis quoi, 20 ans maintenant, si ma mémoire est bonne. Alors, le retrait dans les conditions annoncées par Trump, ben, il n'y en a pas de conditions. J'annonce que je retire, tant pis pour ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, on a vu dès l'annonce du retrait en Afghanistan, des attaques, disons, ça serait plus nuancé, sur l'ambassade américaine à Kaboul. Alors, bien sûr que ça va créer de l'instabilité, mais nous avons créé l'instabilité. Et quand on parle de la résurgence de l'État islamique, etc., ben, je pense qu'on l'a créé, l'État islamique, au plan de la politique internationale.
C'est important quand même, vous l'avez souligné, le président Trump, il va aussi... le président élu Joe Biden a déjà annoncé, en tout cas, qu'il allait participer aux travaux des grandes agences internationales. Mm-hmm. Il a bien sûr parlé de l'ONU, il a parlé aussi de l'Organisation mondiale de la santé, il a parlé de l'accord de Paris sur le climat. Il faut que les États-Unis réintègrent ça. Frédéric, c'est quand même des bonnes nouvelles. Là, qu'on annonce, là, une fois passé cette transition-là, une fois passé le mois de janvier, là, la fin du mois de janvier, là, c'est quand même on peut mieux respirer de ce côté-là.
Oui, tout à fait, mais je voudrais quand même aussi continuer à faire du pouce sur ce que mes deux collègues ont évoqué. Donc, on voit quand même que M. Trump et son envoyé dans la région, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, toujours
oui,
en fonction, est en train de faire énormément de dommages. Donc, le retrait des troupes d'Irak et d'Afghanistan, quand on conjugue ça avec la menace donc contre l'Iran, on sait que de toute façon c'est dans la ligne de mire, l'Iran est dans la ligne de mire depuis un bon moment déjà, et aussi le resserrement des liens, comme s'il y avait besoin d'être resserré plus qu'ils ne le sont déjà, avec Israël d'une part, et d'autre part avec l'Arabie Saoudite, c'est proprement inquiétant. On sait que Mike Pompeo, vraiment en ce moment, c'était du jamais vu pour un secrétaire d'État, est allé dans une colonie juive en Cisjordanie. Écoutez, là, c'est du jamais vu. Donc, cet axe Washington, Tel Aviv, Riyad n'a jamais été en aussi grande santé. Et donc, tout ça est extrêmement inquiétant. Et par une curieuse ironie, une petite nouvelle, un entrefilet qui a peut-être échappé à l'attention. Le numéro 2 des attentats du 11 septembre a été neutralisé et assassiné en Iran. En Iran, là. Donc, l'ennemi public numéro 1 des États-Unis depuis 2001, après le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, qui a été quand même arrêté par, littéralement, donc exécuté par ce qui est, semble-t-il, l'ennemi traditionnel. Bon, cette parenthèse refermée, effectivement, donc le retour à davantage de multilatéralisme, mais carrément, de toute façon, une prise en compte de cette pandémie mondiale, à l'intérieur même du territoire des États-Unis, mais par-delà tout ça, c'est la question du rapport aux frontières, les problèmes environnementaux, c'est pas avec du protectionnisme, c'est avec de l'ultranationalisme qu'on va arriver à y faire face. Ça demande, bien entendu, de penser au-delà de l'espace national, donc dans une logique de supranational, les changements climatiques, les questions migratoires, effectivement, de ce point de vue-là, la logique des murs, la logique de la méfiance, la logique du chacun pour soi qui a été vraiment radicalisée par le règne de M. Trump. Je pense que c'est quelque chose comme un appel d'air qui est tout à fait bienvenu. En même temps, un peu inquiétant. On aurait entendu dans un discours qui était très vertueux, mais on aurait entendu les poncifs habituels de l'impérialisme américain où vraiment M. Trump disait le retour de l'Amérique comme un phare pour le monde. Là. J'ai dit non, merci, on va pas retourner là, s'il vous plaît. Mais bon. On peut comprendre qu'après des années de trumpisme, montrer qu'une autre Amérique existe, porteuse d'idéaux un peu plus juste, on peut saluer ça, mais souhaitons bien entendu que ça ne devienne pas une nouvelle ère vertueuse de guerre juste, justifiée. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète dans cette posture-là.
Alors, écoutez, depuis 4 ans, en fait, à Front et Turbulence, dès qu'on parle des États-Unis, on s'emporte. C'est toujours un grand sujet ici. Merci, comme toujours, de vos réflexions sur le sujet. Je veux juste vous rappeler que la première table ronde de l'année 2021 de Front et Turbulence va se tenir le mercredi 20 janvier. Et le 20 janvier, ben, ce sera l'investiture officielle du 46e président des États-Unis, Joe Biden, et de la vice-présidente Kamala Harris, évidemment, si le processus de transition se déroule bien. Alors, on se rejoint très bientôt. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je suis en compagnie de mes invités, Suzanne Loisel du collectif Échec à la guerre, Marie-Claude Lalonde de l'organisme Aide à l'Église en détresse et Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi. Alors, transportons-nous au Québec maintenant. Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette. Les deux ont dévoilé le lundi 16 novembre le plan pour une économie verte 2030. On a doté ce plan d'une enveloppe de 6,7 milliards de dollars sur 5 années. Il s'agit d'une politique cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement veut faire du Québec un leader de l'économie verte en s'appuyant sur sa grande force, l'électricité. Le gouvernement lance donc un grand chantier d'électrification, principalement dans le secteur des transports. Il annonce, par exemple, qu'il sera interdit de vendre des véhicules neufs à essence à partir de 2035. On veut aussi, pour réduire 50 % des émissions à effet de gaz de serre qui sont liées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. Donc, on veut réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet ambitieux. Le gouvernement fera sa part en réduisant lui-même son empreinte carbone, notamment par l'acquisition de produits et de services québécois dans la gestion durable de son parc immobilier et de sa flotte de véhicules. Juste un exemple, en 2030, 100% des automobiles qui appartiennent au gouvernement, des fourgonnettes et des VUS du gouvernement, ben, seront électriques, alors que 25% de ces camionnettes le seront aussi. Alors, Suzanne, j'y vais avec vous. Alors, on a un gouvernement à qui on a reproché beaucoup, en tout cas pendant les deux premières années de son arrivée au pouvoir, depuis son arrivée au pouvoir, de ne pas beaucoup s'intéresser à l'environnement. Alors, on l'a enfin, notre plan vert.
Oui,
oui, je vois ses yeux.
Et la question qui vient.
Vraiment vert?
Vraiment vert, exactement. Vert pâle, comme certains disaient. Bon, moi, je pense qu'il est presque noir, mais ça, c'est très personnel. Vous avez raison de dire que, bon, par exemple, le gouvernement Legault, si on se réfère à la campagne électorale et à toutes ses annonces, les enjeux climatiques, les enjeux d'une politique plus verte étaient complètement absentes du débat électoral, du programme de Legault. Bon,
on part de loin.
On arrive, on est presque à vélo. Oui. C'est vrai que c'est plus vert, mais par ailleurs, je me dis, ben, 2 ans plus tard, on considère qu'il est à mi-mandat, je pense, si je me trompe pas dans mes calculs. J'aurais le goût presque de dire d'entrée de jeu, de saluer la société civile et les organisations de la société civile d'avoir maintenu sur la place publique, dans l'opinion publique, l'importance d'un virage vert, l'importance de l'urgence climatique, l'importance, oui, de l'électrification. C'est pas une création de M. Legault. C'est la société civile à travers, je donne comme exemple, le pacte de transition et les centaines d'organisations et les milliers de citoyens qui ont soutenu ça. Bon, le pacte de transition a mis fin sous une certaine forme. Il s'est engagé pour 2 ans. Ils ont respecté leurs 2 ans. Je pense qu'on avait peut-être le rêve ou les utopies que les revendications principales seraient atteintes, mais on se rend compte que non. Mais ceci dit, c'est que cette annonce du plan vert n'est pas une création du parti au pouvoir, ça fait pas partie de l'ADN des caquistes. Ça a été la mobilisation de la société civile, je pense, en tout cas c'est mon interprétation, qui amène le gouvernement à proposer un plan, dois-je dire, non contraignant. Et ça, c'est une des critiques majeures qui a été faite par différents réseaux et organisations de la société civile. Et évidemment, M. Legault, c'est toujours sa marotte, hein, c'est son discours au niveau de la pandémie, au niveau de l'électrification des transports, etc. C'est de produire des résultats à court terme. Il dit toujours, moi, je suis pragmatique, etc. Mais si on considère que s'il est pragmatique et pense, par exemple, pour donner un exemple, pour le secteur des transports, oui, vous avez bien illustré les aspects importants au début, mais il n'y a aucune remise en question du transport individuel. C'est comme si on annonce des principes, mais on a des comportements collectifs à remettre fondamentalement en question. Si on veut que les atteintes des rêves, je dirais, écologistes soient atteintes. Par exemple, sur l'extraction des énergies fossiles, rien. Silence total. Je pense qu'on est en train de fantasmer sur une croissance verte sans se donner les moyens et les outils contraignants pour atteindre ces objectifs-là.
Mais Marie-Claude Lalonde, vous, quand vous l'avez lu, ce plan vert-là du gouvernement, vous avez surtout noté que c'était pas un plan environnemental, c'était un plan économique.
Oui, c'était ma première déception. On parlait du plan vert. Bon, j'étais au travail, je me mets le soir à regarder les différents médias, et là, tout d'un coup, je réalise, c'est un plan pour une économie verte et non pas un plan environnemental. Et là, je pense que ça veut dire que, pour moi, en tout cas, on prend pas nécessairement le bon angle pour s'attaquer aux problèmes. Je pense tout de même que d'inclure les coûts environnementaux dans tout ce qu'on fait, sur le plus long terme, ce sera quelque chose qui sera rentable même pour l'économie. Mais en ce moment, on n'en est pas là. Et le but n'est pas d'inclure ces coûts-là. Et puis, mon autre surprise, en fait, c'est de voir que on s'accroche toujours à cette baisse de gaz à effet de serre de 37,5% sous le niveau de 90 pour 2030, c'est dans 10 ans.
Oui.
Et qu'avons-nous fait dans les dernières années? Ben, très, très peu. On est bien loin du 37%. Alors, je me dis, on s'accroche encore à des idées qu'on n'a jamais été capable de mettre en place. Et je me suis posé une autre question. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on a déjà atteint un objectif environnemental? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Et donc, je suis un peu désolée de voir que on ne pousse pas plus loin. Les partis d'opposition l'ont fait remarquer. On parle d'à peu près 50% des solutions. Le reste, ça viendra, mais est-ce que ça viendra? J'en doute. Et dans un vrai plan, je pense qu'on doit dire « je vais investir tant d'argent dans telle chose et j'atteindrai tel résultat ». Là, tout ce qu'on a, c'est le résultat, un peu d'argent et le comment, pourquoi, ça semble très flou, en tout cas, pas bien défini pour l'ensemble des domaines. Et beaucoup l'ont mentionné, on a des incitatifs, mais on n'a pas de pénalité nulle part dans ce plan-là.
Voilà, voilà.
Alors, ça fait partie du problème, à mon avis. C'est beau, les incitatifs, les Québécois sont généralement très bons, mais quand même, il n'y a pas de... On disait, c'est le bâton et la carotte, il n'y a pas de bâton dans ce plan-là. La seule bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on va réviser le plan annuellement et faire des projections sur 5 ans. Donc, habituellement, ce qu'on faisait, on se disait, dans 10 ans, on devrait être rendu là, prends le rapport, mets-le sur une tablette, et 10 ans plus tard, on fait le constat qu'on n'a rien fait. Alors là, si on le révise annuellement, il y a une petite, pour moi, il y a un peu d'espoir de ce côté-là, mais encore, c'est bien, bien peu et possiblement trop peu, trop tard.
Ben, merci pour cette réflexion. Frédéric, il nous reste peu de temps, là, mais il reste que c'est un plan là qui est lancé en pleine pandémie. C'est pas les meilleures conditions, en tout cas, pour lancer de nouveaux projets, alors que vous avez un gouvernement qui est qui met toute son énergie, là, et je parle pas d'énergie électrique, là, mais toute son énergie, justement, à se concentrer sur une bataille contre la COVID-19. Et d'autant plus, et on le rappelait au début, que ben, les élections, là, c'est dans moins de 2 ans, là, hein, c'est en octobre 2022. Est-ce que le gouvernement Legault aura le temps de mener à bien ce nouveau plan qu'il nous dépose?
Mais il pourrait profiter, justement, de l'échéancier d'abord électoral, mais aussi de la situation exceptionnelle de la pandémie, pour justement prendre des décisions structurantes et l'une
et audacieuse.
C'est de rompre avec le tout à l'automobile. Le fameux projet de troisième lien est toujours en route, là.
Oui, oui.
Donc, le projet de développement autoroutier, une bonne partie du budget va être investi dans le développement d'infrastructures routières. Donc, on peut bien se laisser miroiter. Donc, en 2035, on va avoir abandonné donc les voitures à essence. Mais dans l'immédiat, c'est ce qui se produit. Et c'est d'autant plus le cas que les signaux qu'envoie ce gouvernement n'est pas du tout du côté des transports collectifs, mais est encore donc du côté de tout à l'automobile. Vaudrait qu'à un moment donné qu'une perspective d'écologie intégrale qui prend en compte donc la réalité socio-économique, la réalité sociale soit considérée. L'un des facteurs qui explique cette dépendance à la voiture, c'est le type d'étalement urbain, le développement urbain qui fait en sorte que, on le voit en ce moment, il y a une crise du logement sans précédent. Il y a un campement d'itinérants sur la rue Notre-Dame et il y a un étalement toujours plus loin en périphérie et toujours plus en périphérie, parce que par l'effet de la spéculation immobilière et de la gentrification, les gens vont toujours de plus en plus loin et deviennent à ce moment-là dépendants de la voiture. Donc, c'est ce genre de décision structurante. On devrait en profiter justement pour repenser le pacte fiscal, donner les moyens aux municipalités, donc de maintenir la population dans les villes qui souhaitent souvent, moi je connais plusieurs urbains indécrottables qui souvent étaient vraiment la mort dans l'âme, qui ont dû s'installer en banlieue, et de la banlieue toujours plus loin, les familles à revenus modestes, les familles de la petite classe moyenne, quand ils veulent acquérir ne serait-ce qu'une petite propriété, doivent aller toujours plus loin. Donc, c'est cette espèce de spirale complètement folle. Donc, les signaux qu'envoie ce gouvernement-là avec un troisième lien, avec des automobiles, avec donc développement d'autoroutes, sont complètement en porte-à-faux. La façon dont on travaille, le BAP, hein, le BAP en ce moment, c'est une gifle à mon illustre collègue André Beauchamp, qui a été président du BAP pendant des années. On voit quand même que comment ont été conduites les audiences à GNL. Et parallèlement à tout ça, les audiences sur le tramway à Québec, c'est clairement, il y a quelque chose qui donne l'impression d'une politisation en fonction des intérêts partisans de ce parti politique. Donc, visiblement, dans la fenêtre qui est la sienne, plutôt que de tout repousser à 2035, ce serait de prendre des décisions structurantes ici et maintenant pour répondre à deux crises sociales fondamentales. D'abord, celle de l'itinérance et de l'appauvrissement et de la crise du logement. Et l'autre, donc prendre des décisions structurantes pour au moins contrôler l'étalement urbain, qui est la raison principale donc de l'afflux en transport automobile.
Alors, merci Frédéric pour ces réflexions-là. Je vous rappelle que bon nombre des mots que vous avez prononcés dans les dernières phrases, Frédéric, ne se retrouvent pas. On n'en parle pas à l'intérieur de ce plan pour une économie verte 2030, le logement, la mobilité sociale et tout ça. Alors, merci en tout cas pour vos réflexions. Je vous rappelle que le premier ministre a lancé le plan pour une économie verte 2030, le 16 novembre dernier. Bon, alors, est-ce qu'on a enfin des bonnes nouvelles à annoncer? Le jeudi 19 novembre, après, semble-t-il, de longues discussions avec les experts de la santé publique, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que si la situation épidémiologique actuelle se maintient d'ici la mi-décembre, les rassemblements privés seront autorisés à l'occasion de la période des fêtes durant 4 journées, soit du jeudi 24 au dimanche 27 décembre inclusivement, afin de permettre aux Québécois et aux Québécoises de passer des moments privilégiés avec leurs proches. Le premier ministre François Legault a toutefois proposé aux Québécois un contrat moral. C'est important, les mots. Il a insisté pour répéter que c'était un contrat moral. On va se limiter à des rassemblements composés d'un maximum de 10 personnes sur une période de 4 jours, soit du 24 au 27 décembre, en contrepartie. Tous les citoyens devront participer à un confinement volontaire une semaine avant et une semaine après la période autorisée pour les rassemblements privés. « La famille, c'est à la base de notre nation », a dit le premier ministre Legault. « Si on veut avoir des forces pour se rendre jusqu'à la fin de cette pandémie, on a besoin de l'énergie de nos familles. Les fêtes de Noël sont un moment précieux. » Bon, alors, on est content d'entendre tout ça, mais hier, le directeur national de la santé publique a prévenu les Québécois. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 devra diminuer sous la barre des 1000 par jour si on veut avoir droit au rassemblement de Noël annoncé la semaine dernière par le premier ministre François Legault. Mardi, il y avait plus de 1100 nouveaux cas d'infection. Nouvelle indication hier du premier ministre Legault. Il a annoncé que les 4 jours seraient permis pour les rassemblements privés, mais les Québécois devront se limiter à 2 rassemblements au maximum durant ces 4 jours de grâce-là. Alors, c'est pas très clair tout ça, d'autant plus qu'à Ottawa, on n'est pas très chaud à l'idée de permettre de tels rassemblements. Santé Canada estime que la façon la plus sûre pour les Canadiens de profiter du temps des fêtes est de le faire avec des membres de sa famille qui partagent la même adresse. Marie-Claude, le moins qu'on puisse dire, là, c'est peut-être pas le temps, en tout cas, d'envoyer vos invitations là pour chacun des parties que vous voulez organiser du 24 au 27 décembre prochain.
Non, je pense qu'effectivement, on n'en est pas là. Et moi, je retiens surtout la déclaration de M. Arruda hier qui disait « on doit être sous la barre des 1000 cas ». On n'est pas là et je vous ferai remarquer que ça fait quand même assez longtemps que on n'est pas sous la barre de manière, là, disons, constante des 1000 cas par jour. Le gouvernement se réserve encore le droit d'annuler cette espèce de contrat moral si on pense que les conditions pour pouvoir fêter Noël ne sont pas réunis. Donc, effectivement, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour envoyer des invitations. On peut peut-être discuter du menu, mais on n'est pas rendu aux invitations quand même. Et puis, il y a ces nouvelles, je dirais pas nouvelles restrictions parce qu'il y en avait été question, mais c'est de plus en plus clair que ce qu'on souhaite, c'est que les gens se limitent à deux rassemblements. Est-ce que les gens le feront? Je ne sais pas, mais je sais que pour plusieurs familles, ça complique énormément les choses. Vous savez, vous avez un couple dont les parents sont séparés d'un côté comme de l'autre. Si on veut voir tous les parents, c'est quatre rassemblements. Et donc, je pense que dans certaines familles, on en est à décider à qui on fait plaisir et à qui on fait de la peine. C'est difficile, c'est déchirant. Et c'est un peu ça qui me fait penser que le contrat moral va être bien difficile à respecter.
Alors, des décisions difficiles à prendre, c'est déchirant, vous le dites, Frédéric. C'est rien pour obtenir l'adhésion du public là, à une campagne là, pour battre un ennemi là, qui s'appelle la COVID-19.
Non, c'est sûr, mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être l'occasion, je pense que la réalité de la pandémie étant ce qu'elle est, je pense que ça demande peut-être un changement aussi, peut-être de paradigme, à l'évidence, vraiment, les fêtes telles qu'on les conçoit habituellement ne tiennent pas la route, donc les grands rassemblements, les grandes fêtes avec les grandes familles, dans cette optique-là, c'est peut-être l'occasion de réinventer Noël et peut-être même, ou plutôt même, j'ajouterais, de revenir à son essence même, là, retourner dans une forme peut-être plus dépouillée, un peu plus centrée sur la famille peut-être immédiate et voilà, la vivre dans un espèce de plus grand dépouillement possible parce que, je dis pour une fois, je pense que le bon sens rien. Enfin, en même temps, je ressens moi aussi, là, c'est viscéral, on a besoin de se voir les uns les autres. L'isolement a été quand même passablement éprouvant et continue de l'être par ailleurs pour un grand nombre de personnes, mais dans les circonstances ajoutées vraiment au nombre effarant de cas qui se multiplient et en même temps aussi parce que c'est le début de l'hiver, il m'apparaît quand même que c'est la solution la plus sage. Notez ceci à l'ordre du jour que pour une rare fois je suis en accord avec une décision prise par ce gouvernement, mais je pense que dans les circonstances, pour peu que ce soit fait bien entendu de manière cohérente et conséquente, on sent bien malgré tout que derrière tout ça, ce ballon d'essai, c'était bien entendu pour rassurer, bien entendu, les gens, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais donc voilà, vivons un Noël vraiment dépouillé.
Alors, j'imagine que je ne dois pas m'attendre là, à recevoir une invitation pour aller chez vous là, du 24 au 27. Là. Mais alors, dites-moi, Suzanne...
Ni chez nous.
Alors, dites-moi, Suzanne Loisel, je sais pertinemment que vous habitez, vous, dans une RPA. Je ne veux pas dévoiler votre âge, là, mais vous habitez dans une RPA. Alors, j'imagine que les invitations sont peut-être moindres, là, cette fois-ci, puisque le premier ministre Legault a dit qu'il fallait faire attention à nos aînés, particulièrement dans cette période-là.
Aînés et fiers de l'être.
Oui.
Je voudrais quand même préciser que j'habite dans une maison pour retraités autonomes. Il faut quand même le souligner. Même si pendant la pandémie, depuis mars dernier, il y a eu un amalgame entre les CHSLD et les RPA. On traitait les gens des RPA comme s'ils vivaient dans un CHSLD. Je pourrais vous parler des mesures au mois de mars, avril et mai. Bon, évidemment, c'est un autre contexte maintenant. Mais écoutez, je trouve ça un petit peu, je veux dire, à la fois, je trouve que la santé publique a une responsabilité et une responsabilité pour l'ensemble de la société devant un ennemi si terrible, je pense qu'il faut le dire, si vicieux, et etc., qu'on prenne des mesures pour protéger la population, protéger les plus vulnérables, etc. Mais j'avoue que je suis très mal à l'aise devant ce décortiquage de mesures et que on annonce une mesure, 48 heures plus tard, faut comment dire, corriger ce qu'on a dit, compléter, clarifier. Je trouve qu'on bascule dans un monde qu'on veut rapetisser la problématique de la pandémie. Et pour moi, la pandémie, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu international, c'est un enjeu où on devrait avoir une perspective très large. C'est une chose de protéger la population. Moi, je veux dire qu'il y a deux rassemblements, un rassemblement. La question, c'est de nous renvoyer à nos responsabilités, ma propre santé et celle des autres. Et moi, je suis bien mal à l'aise que c'est le premier ministre qui va dire que moi, là, je vais recevoir les gens le 27 au soir, puis je peux pas les recevoir le 24 et le 25. Je trouve qu'il y a une forme d'infantilisation de la population. Puis en même temps, il faut mettre des balises. Alors, disons qu'on est dans un monde de tension. Mais en même temps, moi, j'aimerais bien qu'on parle là, de la question du vaccin, par exemple, parce qu'actuellement, il y a aussi la problématique du vaccin. Qui va y avoir accès? Le Canada, est-ce qu'il est bien préparé? Est-ce que le Québec est bien préparé? Qui va le recevoir? Qui va être la population privilégiée, etc.? Mais faut-il savoir que l'industrie pharmaceutique, qu'avant la santé publique, c'est leur profit? Et comment ça va se répartir à travers le monde? Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont attendre presque 2 ans hein, avant d'avoir... Oui. Puis qui va avoir les moyens de payer le vaccin? Quels sont les pays qui vont avoir les... Bon, là, on fait la file d'attente. Là, on se dit, oh, le Canada, non, ça sera pas dans les premiers pays. Mais imaginez-vous le Botswana, puis le Pérou, puis le Yémen. Quand est-ce que vous pensez que les populations vont être vaccinées?
Bien alors justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, Suzanne, parce que je voulais justement...
Oh, je suis désolée, c'était pas mon objectif.
Mais je voulais justement parler de ça, parce qu'au même moment où le premier ministre François Legault annonce ses bonnes nouvelles, en tout cas jeudi dernier, on apprenait par exemple que un vaccin était efficace à 90 % par Pfizer et Moderna, ajoutait même le lendemain ou le surlendemain que son vaccin était efficace à 94,5%. Alors là, on avait encore une fois des bonnes nouvelles. Et hier, ben c'est le premier ministre du Canada lui-même qui dit « Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour nous de l'avoir parce qu'on doit comprendre qu'une compagnie qui produit des vaccins aux États-Unis va commencer à distribuer son vaccin aux États-Unis avant de le distribuer à l'international. Nous ne produisons pas beaucoup de vaccins ici, en tout cas parmi l'ensemble des ententes qui ont été faites entre le gouvernement du Canada et des compagnies pharmaceutiques. C'est avec des compagnies pharmaceutiques externes. Il veut avoir 194 millions de doses de vaccins, mais pour des vaccins qui sont produits à l'extérieur. Alors, vous avez raison, j'ai l'impression que si pour le Canada, qui est un pays riche, il est capable d'acheter autant de vaccins, il ne peut pas garantir leur distribution. Imaginez, effectivement, pour des pays comme Haïti, mais comment est-ce qu'on va faire pour vacciner la population? Mm. C'est un dilemme là, qui est important. Brièvement, continuez là-dessus, mais très brièvement, Suzanne.
Ben, brièvement, oui, parce que faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé avait déjà fait des propositions au printemps dernier sur la question de la production et de la distribution des vaccins. Et c'est qui a fait obstacle à une proposition qui visait le partage d'informations, le partage d'expertise, le partage de ressources, etc. Ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont bloqué le processus et à répétition. Et c'est les compagnies pharmaceutiques qui déterminent actuellement comment ça va se passer. Je veux dire, bon, oui, c'est vrai que c'est des bonnes nouvelles. On l'attend, ce vaccin, parce que je me dis, si on veut retourner à, bon, je dirais pas à une vie comme avant, parce que j'espère qu'on aura des nouveaux défis, des nouveaux paramètres, etc. Mais moi, je pense qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, il y a des enjeux majeurs. Je finis en disant qu'il y a eu un G20 virtuel la fin de semaine dernière. Parmi les sujets abordés, il y a eu le sujet de la pandémie. Bon, évidemment, il y a beaucoup de groupes de la société civile qui avaient critiqué, entre autres, que ça se fasse en Arabie saoudite, un des pays reconnus pour les violations des droits humains, un pays impliqué dans une guerre au Yémen où le Canada fournit l'armement. Vous comprendrez que la pandémie a comme un peu, je dirais, pas effacé, mais relayé ces grands enjeux dans l'oubli complètement. Par ailleurs, le fait d'aborder la pandémie ensemble, il n'est pas ressorti. Il est ressorti un vœu pieux de faire attention à la répartition et aussi aux pays pauvres. Encore une fois, comme le plan vert, il n'y a pas de mesure contraignante. Si vous lisez la déclaration finale, il n'y a pas de mécanisme de distribution qui va faire attention au nord, au sud, à l'Asie, etc. Alors, je pense qu'on est devant un problème au-delà de la dinde de Noël. Il y a des enjeux éthiques majeurs autour de la pandémie.
Alors, des enjeux éthiques, des enjeux moraux, hein? Il n'y a pas de contrat moral avec les pays pauvres actuellement, là, qui sont signés comme on l'a fait pour le Québec, là, tout ça. Alors, allez-y, Marie-Claude, il nous reste peu de temps, là. Très bien, vraiment, Marie-Claude, pour qu'on puisse entendre aussi Frédéric.
Bien, écoutez, je souscris aux propos de Suzanne. Moi, je suis inquiète si, par exemple, notre premier ministre, nous, au Canada, nous dit « vous devrez attendre ». Imaginez-vous les pays pauvres. Oui, on a le souhait peut-être que tout le monde y ait accès, mais comment on va mettre ça en place? Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait peut-être sans plan. Et pourtant, on a eu et on a encore du temps pour préparer un plan de distribution. Mais comme Suzanne l'a si bien dit, les pharmaceutiques en ce moment décident.
Alors, on ne sait pas en tout cas d'ici Noël là, qu'on aura ce vaccin-là, Frédéric.
Non. J'ajouterais, hein, c'est drôle parce que là, on a même perdu au Canada et au Québec, hein, au pays d'Armand Frappier, donc la capacité de produire de manière massive. On se rappellera qu'il y a quelques années, on avait tout développé, toute une filière autour de Laval, hein, donc autour de l'Institut Armand Frappier. On a tourné en dérision le projet de Québec solidaire de faire un Pharma Québec et donc de nationaliser la capacité de production, et je pense qu'on est un peu rattrapé par tout ça. Parlant de santé, j'attire votre attention sur le dernier numéro, ou plutôt le prochain numéro de Relations qui va s'appeler « La santé au-delà de la médecine », donc qui va aborder justement des alternatives à cette espèce de médecine technocratique. Donc, et à la page 5, vous allez voir mcsq.ca, le projet sur lequel j'ai l'immense bonheur et honneur de travailler, donc « Mémoire du christianisme social au Québec », qui sera lancé le 8 décembre prochain, en présence notamment de Suzanne Loisel.
Merci Frédéric. Merci Frédéric. Enfin, j'ai l'impression que votre numéro va arriver avant le vaccin, en tout cas, ça c'est certain. Écoutez, l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 9 décembre 2020. On vous y donne déjà rendez-vous. Merci à nos invités d'aujourd'hui en studio, Suzanne Loisel, Marie-Claude Lalonde et Frédéric Barrio en télétravail. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, à la régie, Daniel Fortin. Et à l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.